Voilà, donc aujourd'hui, la Trinité, Dieu se révèle en trois personnes. Donc la Trinité, c'est le dogme central de la foi chrétienne. On pourrait presque dire que c'est à partir de la Trinité que le dogme s'est constitué. Donc un Dieu unique en trois personnes. Mais la représentation que nous avons de la Trinité est parfois un peu abstraite, c'est-à-dire qu'on a beau professer que la Trinité, c'est Dieu en trois personnes, il n'empêche qu'il est parfois difficile de se représenter ce que sont ces personnes et ce qu'est cette Trinité sans virer vers l'hérésie de penser qu'il y a trois dieux. Voilà. Donc ça reste quand même quelque chose de compliqué, de simple et de compliqué. Donc professer sa foi en Dieu trinitaire, on pourrait d'abord dire que c'est croire que Dieu s'est révélé aux hommes et que Dieu qui se révèle aux hommes, c'est le Dieu créateur. Ça, c'est une première chose, Dieu créateur. C'est croire que Dieu sauve. Il sauve son peuple. Et pour sauver son peuple, il décide, à un moment qui lui a semblé opportun, d'engendrer le Fils. Donc c'est le Fils sauveur, le Fils unique engendré. C'est aussi confesser, croire que le salut vient de Dieu par son Fils Jésus-Christ, donc par la médiation, on en a parlé la fois dernière, par la puissance de l'Esprit. Donc l'acte d'incarnation, ça c'était le cours d'il y a deux semaines, l'acte d'incarnation, c'est un acte volontaire du Père d'engendrer le Fils par la puissance de l'Esprit. On a donc dans ce mouvement du Dieu créateur, du Fils engendré par la puissance de l'Esprit, on a déjà posé la Trinité. Donc on a le schéma finalement de l'économie de Dieu dès sa révélation. Il crée, il révèle, il engendre et il sauve. Ça suit ce mouvement. Il crée, il révèle, il engendre et il sauve. Et tout cela, il le fait par la puissance de l'Esprit. Alors, pour entrer dans le sujet, je vous lis le premier texte, qui est un texte de Joseph Wolinski, qui est toujours vivant. Il a 91 ans, théologien en dogmatique à l'ICP. Voilà ce qu'il écrit. La confession de la Trinité constitue un paradoxe majeur, non seulement parce qu'elle tient que Dieu est à la fois un et trois, mais encore parce que la deuxième des trois personnes, le Christ, est en même temps un homme, ce qui introduit un facteur nouveau d'altérité en Dieu, et ce d'autant plus que cet homme est inséparable de son corps qui est l'Église. Donc voilà le paradoxe, un Dieu en trois personnes et la deuxième personne de la Trinité a deux natures. Ces trois personnes ne forment qu'un seul corps en l'Église. Cela nous dit aussi que la révélation de Dieu est trinitaire, en raison même de ce mouvement interne à l'intérieur de la Trinité. On va regarder ça. Donc le premier point, le grand 1, c'est la révélation est trinitaire. Donc cela veut dire qu'à l'intérieur de la Trinité elle-même, il y a un mouvement des personnes entre elles, comme une circulation, une circumvention, une circulation des trois personnes entre elles. Et donc cette circulation des trois personnes entre elles met en œuvre de manière interne vers un mouvement d'extériorisation, on avait vu ça la dernière fois, d'extériorisation, de révélation. Ce Dieu, qui est un Dieu en trois personnes, se fait connaître et se révèle parce qu'à l'intérieur de la Trinité, il met en œuvre l'engendrement du Fils. Ça veut dire que la Trinité, ces trois personnes, ne restent pas entre elles. Vous voyez ? Il y a un mouvement du Père créateur pour faire connaître le Fils, que le Fils devienne le médiateur du Père et que sa vie, sa mort et sa résurrection puissent être rendues possibles, puissent être possibles par la puissance de l'Esprit. Dans la Trinité, il y a déjà un acte de Dieu en vue de la révélation. L'incarnation du Fils, c'est un acte de révélation, puisque nul ne connaît le Père sans passer par le Fils. C'est cela, ce dont je parle, ce que je voudrais vous expliquer, de mouvement interne, comme une économie interne, un acte de Dieu, un vouloir de Dieu de se faire connaître et de se révéler. Cela commence déjà dans la relation des trois personnes de la Trinité. Et donc, il y a une relation interne qui est une relation éminemment d'amour, puisqu'il n'y a pas de mouvement sans un amour d'une personne pour l'autre et de l'autre pour les deux autres. Enfin, il y a une circulation d'amour, un échange, un dialogue d'amour, et on pourrait dire que c'est une relation qui demande à s'extérioriser en vue de se faire connaître pour les hommes, en vue des hommes. Donc on pourrait dire qu'il y a dans la Trinité un mouvement, quelque chose d'interne, interne, c'est cet amour des trois personnes entre elles, c'est un amour relation. Et dans ce mouvement de la Trinité vers l'extérieur, c'est-à-dire l'incarnation du Fils, la médiation du Fils, ce mouvement externe, c'est toujours un amour qui se donne, mais c'est un amour en relation. Donc il y a ce qui caractérise les trois personnes de la Trinité, c'est cet amour qui est, on pourrait presque dire, voilà, la relation des trois personnes, c'est l'amour, et l'amour, c'est la relation. C'est ce qui caractérise ces trois personnes. Et dans un mouvement de révélation et donc de médiation, eh bien, ce mouvement interne, il se donne en relation pour les hommes, vers les hommes. Ça veut dire que nous sommes intégrés dans la relation, mais de manière externe. On y est intégré par la médiation du Fils. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans la relation. Voilà. C'est une relation qui se donne, qui est une relation en vue de, qui est pour nous. Et donc il y a cette procession dans la Trinité, on va parler de procession, qui vient du latin sedere, et qui veut sedere, qui veut dire se déplacer. Donc il y a vraiment un déplacement, un mouvement
du Père, du Fils et de l'Esprit, du Père vers le Fils, du Fils vers l'Esprit et de l'Esprit qui retourne au Père. Mais ce schéma-là, il serait faux, enfin, si on ne rajoutait pas la flèche ici, on l'avait déjà vu, je crois, avec vous. Parce que cela circule, c'est vraiment une circulation infinie, interne de l'amour. Et lorsque le Fils est engendré, Jésus-Christ, eh bien, cet amour-là, il se donne dans la vie, il se donne à la croix, il se donne à la résurrection, il se donne à la Pentecôte, lorsque les apôtres et Marie reçoivent l'Esprit, c'est ce même Esprit, y compris l'Esprit que nous avons reçu à notre baptême, si nous avons été baptisés, mais bon, si nous n'avons pas été baptisés... Alors, dans l'Écriture, on retrouve une articulation assez courante des trois personnes de la Trinité, mais le mot « Trinité » n'y est pas, c'est-à-dire il n'est pas prononcé, on ne retrouve pas dans l'Écriture le mot « Trinité ». En revanche, on peut trouver dans le texte 2 que je vous ai mis, acte 2, verset 32-33, eh bien on retrouve « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins, exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit-Saint promis, il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Donc, on a bien Jésus, le Fils, Dieu qui ressuscite le Fils, le Père, et l'Esprit-Saint. Chez Paul, on retrouve également le même mouvement de la Trinité dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4-7, quand Paul écrit qu'il y a une diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'actions, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre. Donc on peut surligner le « en tous ». À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Donc « en tous, pour tous ». Et en vue du bien de tous. Donc la Trinité, cette amour-relation, il est voué à être communiqué. C'est pas Dieu n'est pas jaloux de l'amour trinitaire. C'est un amour qui est voué à être donné, à être communiqué en vue du bien de tous. Alors, on parle aussi dans la Trinité, on parle aussi de personnes, parce que cette communication dans la Trinité, elle doit se comprendre à partir de l'union des trois personnes, puisqu'on dit trois personnes de la Trinité. Donc on a ce terme, deux personnes. En grec, c'est le terme hypostase. Hypostase. Et donc ce terme grec, les termes grecs qui définissent la Trinité ont souvent été, ont posé quelques difficultés. Donc je vous avais, je ne sais pas si vous avez le vocabulaire, je vous ai fait un petit tableau avec trois termes qui ont été utilisés pour parler de la Trinité dans les premiers siècles. Donc, il y a d'abord le terme d'essence et de substance. En grec, c'est lousia. Et en latin, c'est essentia ou substantia. Donc, je vous ai mis une petite signification des termes à côté. Le terme de personne, eh bien, en grec, hypostase ou hypostasis. En latin, persona. Et la nature, fusis, en grec, ou natura. La difficulté, c'est que ces trois termes-là, eh bien, sont similaires. C'est-à-dire qu'une personne, elle est constituée d'une substance, où la nature, c'est la substance, et donc l'essence. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'essence dans la personne, et on va retrouver aussi dans la nature la dimension de substance. Donc on a des termes qui signifient la même chose globalement, seulement le terme de personne, quand il est utilisé en dehors du monde grec, n'a pas du tout la même situation, la même signification que lorsque le grec au IVe siècle utilise ce terme de personne. Donc le vocabulaire a été l'occasion pour le premier concile, et le premier concile de Nicée en 325, l'occasion de controverses, puisque la signification des termes posait des difficultés. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on comprend la substance? Est-ce qu'on la comprend différemment de la nature? Alors, si la substance c'est la nature, eh bien le Fils est-il de la même substance que le Père? Mais on dit que le Fils a deux natures, donc comment est-ce qu'il y a donc deux substances dans le Fils? Donc vous voyez bien, les mots nous piègent en fait. Donc ça, c'était une très grande difficulté. Le problème, c'est que pour parler de Dieu, eh bien, on ne peut parler de Dieu et de ce qu'il est que de manière analogique, c'est-à-dire à partir de ce que l'on connaît, à partir de ce que l'on comprend. Donc c'est toujours de manière analogique, c'est-à-dire par comparaison. On va comparer, on va essayer de trouver la comparaison la plus proche de ce que l'on veut signifier. Et donc, c'est ce qu'ont fait un peu les premiers conciles. Alors, la comparaison, elle permet de dire ce qu'est Dieu, et puis elle permet aussi de dire ce que Dieu n'est pas. Alors, l'Écriture nous dit, par exemple, eh bien, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Eh bien, l'image de Dieu, bah, donc, comment on peut comprendre ça? Est-ce que nous sommes la copie conforme de Dieu? Dieu est-il une image? Comment, de quelle manière sommes-nous l'image de Dieu? Donc vous voyez, même ça, ça nous pose des difficultés. Parce que la question, c'est toujours de ne pas confondre l'homme et Dieu. L'homme et Dieu ne peuvent se confondre. Donc, est-ce que l'homme est une représentation de Dieu? Ben non. Est-ce qu'il est l'image, la reproduction de l'image de Dieu? Mais pour répondre positivement, il faudra encore que l'on ait vu Dieu en face à face, ce qui est impossible. Donc, on essaye de recourir à l'analogie et de s'approcher le mieux possible, le plus possible, avec le moins d'erreurs possibles, de ce que Dieu peut être. Donc, à partir de la relation interne dans la Trinité, donc cette relation-là, cette amour-relation, eh bien, on peut comprendre que dès l'instant où il y a extériorisation de cet amour, il ne peut y avoir pour l'homme qu'une connaissance partielle de ce qu'est l'amour de Dieu. Et les hommes s'approchent au plus près de ce qu'est l'amour lorsque le Fils est crucifié et ressuscité. Mais vous voyez bien qu'on n'est jamais totalement dans la relation directe de cette manifestation et de cet amour-là. Tout ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il y a un lien indéfectible entre l'incarnation et la Trinité. Et je vous l'ai souvent dit, on ne comprend la Trinité qu'à partir de l'incarnation. Parce que l'incarnation va manifester la Trinité. Si le Fils est engendré, alors c'est qu'il y a un Père. Et si l'engendrement est possible, c'est qu'il y a une puissance de l'Esprit. Donc ça, c'est plus facile de le comprendre à partir de là. Donc, incarnation et Trinité sont liés. C'est notre point suivant. Donc, s'il y a un lien entre l'incarnation et la Trinité, c'est en raison même du don du Fils, ce Dieu parmi nous. Et donc Jésus-Christ va nous donner accès au mystère de la Trinité, puisqu'il est le médiateur.
Mais on pourrait dire, dans l'Ancien Testament, Dieu aussi s'est révélé. Il s'est révélé par sa parole. Donc cette révélation de Dieu dans l'Ancien Testament était-elle déjà de l'ordre de la Trinité? Donc la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament va déjà instaurer la distinction des personnes. Dieu se révélant dans l'Ancien Testament n'est pas, ou Moïse, ou les prophètes recevant la parole de Dieu, les prophètes ne sont pas confondus avec Dieu. Ce sont des messagers. De la même façon que le Christ n'est pas confondu avec un prophète, il n'est pas le messager de Dieu. Il est lui-même le message de Dieu en tant que fils. Mais on voit bien que cela instaure, la révélation de Dieu instaure, qu'elle soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, instaure la distinction des personnes. C'est-à-dire que l'action de Dieu dans l'Ancien Testament n'est pas la même action de Dieu dans le Nouveau Testament, puisque dans le Nouveau Testament témoigne de l'incarnation du Fils. L'action est différente. Il y a distinction de leur action. Est-ce que ça va, ça pour ça? Donc l'acte trinitaire de se donner, on pourrait le qualifier bien sûr de don, d'union, puisque les trois personnes ne sont pas séparées, et même on pourrait envisager qu'il y a même une onction, qu'il y ait de l'ordre de l'onction. De quelle manière? Le don, eh bien, c'est le mouvement du Père au Fils, du Fils engendré, du Père au Fils. L'union, c'est l'union du Père et du Fils. Et l'onction, ce serait l'esprit commun qui est l'esprit commun du Père et du Fils. Et cet esprit qui sanctifie l'un et l'autre. Et on peut retrouver dans l'Écriture, chez Matthieu, au chapitre 3 et au verset 17, on peut lire « Celui-ci, c'est au moment du baptême de Jésus. » Il n'est pas dans le texte, hein, c'est juste un verset, donc je ne vous l'ai pas mis. « Celui-ci, donc Dieu, au moment du baptême de Jésus, Dieu parle et dit « Celui-ci, il m'a plu de le choisir. » Donc on est là dans l'ordre d'une intronisation, d'un choix. On a la même chose dans Marc, chapitre 1, verset 11. Et en revanche, chez Luc, on a quelque chose d'un petit peu différent. Chapitre 3, verset 22, là, la voix de Dieu dit « Tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. » Donc cet engendrement, cette action d'engendrement au moment du baptême, c'est-à-dire un engendrement qui n'est pas l'engendrement de naissance, mais on pourrait dire de ce double engendrement qui est le baptême qui vient signifier la descente de l'Esprit telle une colombe qui descend sur le Christ, qui vient signifier l'onction en quelque sorte. Donc on a le choix qui est de l'ordre de l'intronisation et le terme d'engendrer, aujourd'hui je t'ai engendré, cette dimension d'onction, puisque là c'est l'action de l'Esprit qui est sollicité. Dites-moi.
Est-ce que vous pouvez répéter la phrase dans Matthieu sur...
Ah oui, dans Matthieu. Celui-ci, il m'a plu de le choisir. Il m'a plu de le choisir. C'est au chapitre 3 et au verset 17. Donc dans la traduction de la Tobe. Hein, si vous allez dans la Bible de Jérusalem, ce sera un petit peu différent, mais j'ai pris la traduction de la Tobe. Donc, par cette grâce, cet esprit qui habite le Fils et le Père, c'est à la suite du Fils que les apôtres et que nous-mêmes aujourd'hui, on peut dire « Abba Père ». Vous voyez, le fait qu'il y ait dans la Trinité cette relation amour qui s'extériorise, cela nous permet de dire à notre tour notre Père. Lorsque Jésus prie son Père, il nous montre le chemin, il nous dit comment prier. Et donc, nous pouvons dire à notre tour, s'adresser à Dieu, Créateur, s'adresser à lui comme notre Père. Mais on voit bien que la relation... Alors, dans cette relation, on y est parfaitement intégré d'une certaine façon, en raison même de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection. Le don de sa vie a posé dans le monde l'intégration, enfin le mot n'est pas très beau, mais vous voyez bien, j'en ai pas d'autres là tout de suite, le fait d'être intégré dans cette dynamique d'amour. Ça a créé ce hiatus, cette rupture qui fait qu'à partir de là, entre amour-relation et amour-en-relation, eh bien la croix et la résurrection se trouvent être le lieu qui vient rassembler ces deux dynamismes, ces deux dynamismes de révélation hein, quand même, parce que... La Trinité qui se révèle et puis le Christ qui révèle la relation du Père, du Fils et de l'Esprit, elle est pour nous et ce même Esprit que nous recevons le jour de notre baptême et donc là dans ces versets que le Christ lui-même au baptême qu'il a reçu juste avant de commencer son enseignement qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Donc il y a un lien indissociable entre le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a donc une unité trinitaire, voilà, qu'on ne peut pas dissocier. La difficulté, et notre difficulté, c'est qu'il y a une unité trinitaire, donc une unité, et en même temps il y a du multiple. C'est cela qu'il faut tenir. On est obligé de tenir l'unicité et de tenir le multiple. D'abord parce que Dieu est unique, il y a un seul Dieu, donc il y a de l'unique, et puis ce Dieu, il se donne en trois personnes, il y a du multiple. Alors on va essayer de comprendre un peu ça. Alors, je vais essayer d'effacer mon tableau. Alors, comment arriver à comprendre que puissent cohabiter du multiple, de l'unique et du multiple ? Alors, je vais reprendre mon truc là. Alors, si je dis Père, Fils, Esprit. Il y a de l'unique. Il y a de l'unique parce qu'entre le Père, le Fils et l'Esprit, il y a du commun. Il y a du commun. Quelque chose d'identique. Il y a du commun et de l'identique. Identique. Pourquoi il y a du commun et de l'identique ? En raison même de la nature divine. Ils partagent la même nature divine. Donc il y a du commun et de l'identique. Donc de l'unique. Maintenant, si je mets en dessous Père, Fils, Esprit, eh bien, il y a du multiple, pas simplement en raison qu'il y a trois personnes, mais c'est parce que il y a pour chacun quelque chose qui leur appartient en propre. Qui leur appartient en propre. Cela signifie que l'action du Père est différente de l'action du Fils, qui est différente de l'action de l'Esprit. Vous voyez, il y a quelque chose qui leur appartient en propre, au titre que ce sont trois personnes.
Est-ce que vous comprenez ça, le fait que l'action soit différente? C'est pas le Fils qui engendre le Père engendre le Fils. C'est pas le Fils qui se ressuscite lui-même. C'est l'Esprit, c'est la volonté du Père avec la puissance de l'Esprit qui ressuscite le Fils. On ne dit jamais Jésus s'est ressuscité. Jésus a été ressuscité. Vous voyez ? Donc ça veut dire que l'action, voilà, ils ont une action en propre. Et comme ils ont une action en propre, alors il y a du multiple. Et voilà comment cohabite l'unique et le multiple.
De manière très synthétique. En revanche, on peut pas dire qu'il y a trois individualités.
Là, j'ai bien mis trois personnes. Vous voyez ? Parce que si je mets trois personnes et qu'on a en tête, ben, une personne, c'est quoi ? Ben, c'est un sujet, c'est un individu. On pourrait dire qu'il y a trois individualités. Et ça a été un problème au premier dans les conciles. Parce qu'il n'y a pas trois individualités.
Vous dites qu'il n'y a pas trois individualités, mais il y a trois personnes, c'est ça ?
Oui.
Cette différence entre personne et individu.
Oui, voilà, c'est ça. Ben, la différence, elle tient au fait que la représentation que nous avons du terme de personne et d'individu n'est pas du tout ce que traduit le terme de personne au moment des premiers conciles. En 325 à Nicée, lorsque il a fallu défendre l'identité du Christ, parce que la question c'était est-ce que le Fils est de même nature que le Père ? La question, elle a émergé de l'intérieur de l'Église en fait. Arius, Alexandrin Arius, lui disait, il maintenait qu'il y a eu un temps où le Fils n'était pas. Voilà ce qu'il disait. Donc il y a eu un temps où le Fils n'était pas. Donc s'il y a eu un temps où le Fils n'était pas, alors c'est que Dieu est unique, il est le seul et unique inengendré. Donc dès l'instant où il est le seul et unique inengendré, et bien du coup, et s'il y a un temps où il n'était pas, donc ça veut dire que le Fils, il est postérieur. Donc s'il est postérieur, c'est qu'en fait, il n'est pas de la même nature, il n'est pas de nature divine, il est d'une autre nature. Et ça a été la grande question, c'était ce qui a été mis en débat. Et donc, il a bien fallu que les pères conciliaires, enfin, du concile de Nicée, défendent le fait que le Père et le Fils sont de même nature divine. Sinon, si le Fils n'était pas de la même nature divine, alors ce serait... Enfin, il y a eu des hérésies, l'adoptionnisme. On pensait qu'il avait été adopté. Subordinationnisme, on pensait qu'il était inférieur au Père. Donc après, on a droit à toutes les possibilités, en fait. Donc, le concile de Nicée, en 325, a affirmé que le Père et le Fils étaient de même nature, donc de même substance. Voilà. Mais comme ils ont des actions différentes, alors, on a considéré qu'ils étaient trois personnes distinctes. Pas séparées, mais distinctes. Donc, nous, on doit tenir cela. Trois personnes distinctes en raison de leur action, mais qui ne sont pas séparées en raison de l'identité de nature, en raison de leur même nature. Si on tient ça, on tient la Trinité.
Est-ce que c'est pour ça qu'on a changé dans le credo l'Esprit Saint, maintenant on dit consubstantiel au Père, avant on disait de même nature que le Père.
Ah oui, alors ça c'est ça c'est Nicée-Constantinople.
Oui.
Nicée-Constantinople. C'était ça au départ, c'est-à-dire consubstantiel au Père, c'est-à-dire de même nature que le Père.
D'accord.
Parce que si on dit ousia en grec,
oui.
Ousia c'est la nature et c'est aussi la substance. Donc c'est, voilà, c'est nature et substance. Et bien Nicée a considéré que usia nature et substance, que le Fils est de même nature que qu'il est divin, que le Fils est divin. Donc s'il est divin, il est de même nature que le Père, et donc il est de la même nature et de la même substance, de la même usia. Voilà. Et même, en grec, ça se dit homo. Donc le terme qui a été choisi, c'est homo ouios, c'est-à-dire de même nature que le Père, et dans nature, il y a substance. Donc le latin, après, et puis ce qu'on dit maintenant, c'est le Fils est consubstantiel au Père. Ça vient de là. C'est cela que ça veut dire. Mais bon, c'est vrai que le symbole Nicée-Constantinople, on ne le dit pas tout le temps. Ouais, c'est de temps en temps. Voilà. On ne le dit pas tout le temps. Et puis ça ravit un petit peu la querelle du filioque, quoi. Donc c'est pas, des fois je me dis c'est peut-être pas. C'est pas la peine de mettre le doigt dessus, quoi. Parce que c'est pareil avec l'esprit, bon, entre les orthodoxes et les protestants, bon bah nous on dit l'esprit procède du Père et du Fils. Et oui, on a raison. Et puis les orthodoxes disent l'esprit procède du Père par le Fils. Et ils ont raison. Voilà, c'est juste que voilà, chacun s'est campé sur sa position. Donc, trois personnes identiques par leur nature, mais distinctes par leur action. Et là, vous tenez la Trinité. Et donc, on peut confesser, professer sa foi en un seul Dieu, sans trop de difficultés. On peut, voilà, c'est possible. Donc, le point 1-2, la foi en un seul Dieu. Et là, je vous ai sélectionné un texte, le texte 4 de Joseph Ratzinger, avant qu'il soit Benoît XVI, et qui explique bien, et qui nous dit « La doctrine trinitaire n'est pas née d'une spéculation sur Dieu, d'une tentative de la pensée philosophique pour mettre au clair la constitution intime du principe de tout l'être. Elle résulte des efforts d'élaboration de certaines expériences historiques. La foi biblique dans l'Ancien Testament a d'abord rencontré Dieu comme Père d'Israël, comme Père des nations, comme Créateur et Seigneur du monde. Au temps du Nouveau Testament, où sont posés les fondements de la foi chrétienne, il se produit un événement tout à fait inattendu, où Dieu se montre sous un jour inconnu jusque-là. En Jésus-Christ, on trouve un homme qui se sait et se proclame fils de Dieu. Dieu apparaît sous la figure de l'envoyé, pleinement Dieu, non pas un être intermédiaire, et qui, cependant, avec nous, s'adresse à Dieu en lui disant Père. D'où un singulier paradoxe. D'une part, cet homme appelle Dieu son Père, et il s'adresse à lui comme à un toit qui lui fait face, et d'autre part, il est lui-même réellement la proximité de Dieu, venant à notre rencontre. Il est la médiation de Dieu par rapport à nous, parce qu'il est Dieu existant comme homme dans la forme et la nature d'un homme, Dieu avec nous, l'Emmanuel. Donc vous voyez, Joseph Ratzinger, il reprend depuis l'Ancien Testament, c'est-à-dire depuis la Révélation. Il retrace à grands traits, très rapidement, la médiation du Fils, voilà, en partant toujours de la foi biblique et en relevant le paradoxe. Ben oui, cet homme appelle Dieu son Père. Cet homme, donc vous voyez, donc nature humaine. Et il est en lui-même, c'est-à-dire qu'il est en lui-même, en sa nature même, la proximité de Dieu. Donc la difficulté, c'est toujours, parlant de la Trinité, eh bien, de concilier l'un et le multiple. Donc le dogme de la Trinité aura été de fixer les notions de filiation et de relation par des termes spécifiques. Donc le dogme, il fixe les termes
les termes qui vont signifier la relation des trois personnes entre elles, mais en utilisant des termes tout à fait spécifiques. Mais bon, je vous parlais des différentes hérésies, parce qu'après Arius, sera été la question, ce sera l'esprit. C'est-à-dire que un concile vient affirmer, vient contrer l'hérésie en affirmant, mais les adeptes d'Arius ou de Tichès ou de Nestorius continuent de faire des adeptes qui continuent de prôner d'autres hérésies. Donc les conciles sont convoqués de manière à épurer en quelque sorte toutes les hérésies et de manière à affirmer non pas le dogme, mais affirmer les termes du dogme. Donc voilà,
excusez-moi, je vais peut-être un peu...
Dites-moi.
Le dogme de la Trinité affirmé avec nous, vous parlez toujours du concile de...
Oui, du concile de Nicée,
c'est toujours le même.
En 325, oui, le premier
concile. C'est là où ça a été
oui.
réaffirmé par rapport aux hérésies.
Voilà, c'est ça. Lorsqu'Arius dit, bah, dès l'instant où à un moment donné Dieu, le Fils n'existait pas, bah, forcément... s'il n'existait pas, c'est qu'il n'était pas de même nature que le Père. Donc le concile de Nicée en 325 va affirmer qu'ils sont de même nature. Nicée en 325, voilà, donc en Nicée en 325, c'est l'empereur Constantin qui convoque le concile, et je crois que c'était le pape Sylvestre Ier qui était le pape. Voilà. Parce qu'on est encore dans cette période, jusqu'en 1054, où ce sont les empereurs qui convoquent les conciles. Ensuite, ce sont les papes. Et donc, celui qui était le secrétaire au concile de Nicée, c'est un père de l'Église qui s'appelle Athanase. Athanase d'Alexandrie. Donc en fait, c'est vrai, quand on parle de concile, bah, il faut envisager toutes les personnes enfin, qui forment l'Église, qui sont là pour défendre. Donc Athanase, il était secrétaire à Nicée, Athanase d'Alexandrie. Mais il y en a d'autres après qui ont continué à défendre la Trinité. Origène, Saint Hilaire de Poitiers, enfin, donc...
Vous avez mis le petit schéma.
Oui, je vous ai mis ce schéma-là. Je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais ça n'a pas d'importance, on peut en parler maintenant.
Le schéma d'Athanase, parce que je trouve qu'il permet de bien comprendre. Parce que, vous voyez, si je mets Père, Fils, Esprit... Bah, ça va être plus compliqué de dire ce qu'est le Fils par rapport au Père ou ce que n'est pas le Fils par rapport au Père ou par rapport à l'Esprit. Alors qu'Athanase, il a fait ça, il a mis Dieu au centre, voyez ? Il a mis Dieu au centre. Et mettant Dieu au centre, il a fait une flèche comme ça, il a dit bah, le Père,
j'ai le fait.
L'Esprit Saint, il a mis l'Esprit Saint ici, à gauche, l'Esprit Saint... Et puis là, le Fils. Et donc, il est partant de Dieu, ben, il dit...
Est-ce qu'il a mis... Ah, non, il n'a même pas mis de flèche, alors je vais l'enlever, parce que ça... Ah, non.
Non, je sais pas. Donc, Dieu est Père, Fils et Esprit. Effectivement, ils sont de même nature, et que... Quand Jésus dit « Qui m'a vu, a vu le Père », qui a vu le Christ, a vu Dieu. Donc, Dieu au centre, Père, Fils et Esprit. Par contre, et donc ça, c'est l'identité de nature, on dirait, ils sont de même nature, et mais Athanase va dire ce que l'un n'est pas, donc le Père, donc l'Esprit n'est pas le Père, l'Esprit différent n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père. Ce que, voilà. Et donc ça permet de comprendre, me semble-t-il, avec toutes les limites d'un schéma. Parce que ça aussi, quand on dit que le Fils n'est pas le Père, il faut dire au titre de quoi on le dit qu'il n'est pas le Père ? Ben, au titre de l'action. L'action du Fils n'est pas la même action que le Père. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on retombe dans l'hérésie de l'individualité. Vous voyez, on est toujours un peu pris en se disant, oh là là, il faut être toujours très prudent. Donc le schéma, il est bien, mais voilà, avec toutes les limites. Parce qu'on ne peut pas dire que l'esprit n'est pas le Père, voilà. Mais au titre, on peut le dire au titre de leur action qui est différente.
Donc confesser ce dogme pour l'Église, ce n'était pas simplement établir une règle de foi qui montre qu'elle a dû combattre une hérésie, mais c'est aussi un acte de foi. C'est-à-dire que lorsque l'Église affirme une règle, ce n'est pas simplement pour affirmer une règle à suivre, mais c'est aussi de sa part un acte de foi. Ce n'est pas que de la défense de la foi. Et puis c'est aussi accepter le mystère qui est le mystère de la volonté de Dieu. C'est-à-dire un mystère de Dieu qui décide de se révéler en trois personnes et de mener une action distincte. Donc, la religion chrétienne est une religion monothéiste, éminemment monothéiste, mais avec cette difficulté-là de ces trois personnes, c'est-à-dire on croit en un Dieu unique en trois personnes. Donc le monothéisme trinitaire, c'est notre point 1-3. Et donc ce monothéisme, il est déjà inscrit dans l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle le schéma Israël. Deutéronome 6,4 « Écoute Israël, écoute Israël, Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » Donc déjà dans l'Ancien Testament confesse et professe un Dieu unique. Et donc cette confession de foi qui est exprimée, là on est au temps de Moïse, hein, Deutéronome, on est au temps de Moïse, elle s'est accomplie en Jésus-Christ. Et donc on peut lire en Corinthiens chapitre 8 verset 6, « Pour nous en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et par qui nous allons. » Donc on relève le « par » qui est vraiment le terme de la médiation. Donc l'être divin de Dieu est unique et chaque personne se distingue et ne se confonde pas. Et c'est ça que le Concile de Nicée va établir et va affirmer. Donc je vous parlais tout à l'heure des différentes hérésies. Donc on peut en dire quelques mots. Ça va, je ne vais pas trop vite. Alors, notre point 2, la Trinité, une question en débat. Et qui a été en débat dans les premiers siècles de l'Église. Et elle a été en débat dès le deuxième siècle, en fait. Vous voyez, on parle de quatrième siècle avec Nicée, mais dès le deuxième siècle, la question débattue, parce qu'il y avait des théories, et des théories qui ont été considérées hérétiques après, mais on ne peut pas reprocher aux chrétiens des premiers siècles de se poser des questions. Donc leurs questions ont permis de soulever des débats et elles ont permis à l'Église de pouvoir affirmer des règles de foi. Donc, de ce point de vue-là, ces hérésies ont été profitables à l'Église. Et donc, dans les principaux courants qui émergent dès le IIe siècle, eh bien, on a un courant qui s'appelle le modalisme, le monarchianisme, le subordinationnisme et l'adoptionnisme. Donc, on va juste ouvrir des petits points sur ces hérésies. Donc, le monarchianisme. On appelle les théories du monarchianisme des théories monarchianisantes, parce qu'elles proviennent de ceux que l'on appelle des monarchiens. Et les monarchiens, c'est un terme que l'on doit à Tertullien. Tertullien, c'est 160-220, père de l'Église, qui a combattu 160-220. Donc lui, il les appelle les monarchiens. Voilà, monarchiens. Et donc à partir, je ne sais pas écrire, monarchien. À partir de là, le monarchianisme.
Pardon, là, vous pouvez répéter les dates de Tertullien.
Tertullien, 160-220.
Merci.
Donc c'est vraiment deuxième siècle. Voilà, à peine. Donc les monarchiens, ils pensaient que les trois personnes de la Trinité étaient des manifestations du Dieu unique. Donc les trois personnes de la Trinité étaient chacune des manifestations du Dieu unique. Chacune manifestait le Dieu unique. Donc en fait, c'est comme si chaque personne jouait le rôle de Dieu. Donc ça, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Donc ça, c'était la première hérésie. Donc chaque personne ne peut pas jouer le rôle de Dieu. Ça va ?
C'est compliqué.
Ils pensaient que les trois personnes de la Trinité, que le Père manifestait le Fils, que le Fils manifestait l'Esprit, que le Père manifestait l'Esprit ou le Père, c'est-à-dire que chaque personne manifestait l'autre. On pourrait dire, finalement, c'est pas si faux que ça, puisque le Fils est la manifestation du Père. Sauf que dans leur raisonnement, il y avait plutôt l'idée que chaque personne de la Trinité jouait un rôle. C'est qu'elle n'était pas en elle-même la manifestation du Fils. Le Fils n'était pas en lui-même la manifestation du Père. Chaque personne jouait un rôle. Alors on n'oublie pas qu'on est dans un monde grec. Et que dans le monde grec, après on va retrouver chez les modalismes, l'idée, ou même chez les monarchiens, on va retrouver l'idée du théâtre. Vous savez, le prosopone, le masque. Donc, c'était ça l'idée pour eux, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personne jouait le rôle, portait le masque de l'autre pour jouer le rôle de l'autre. Donc ça ne peut pas tenir. Donc le prosopone, le fait que chacun... Donc il y avait l'utilisation du langage du théâtre grec pour pouvoir signifier la manifestation de la Trinité. Donc ça ne pouvait pas tenir. Donc ça a été combattu. Ensuite, ça a été le modalisme. Alors, pour les modalistes, l'idée, c'était que Dieu apparaisse selon un mode différent, des modalités différentes, la modalité du Fils, la modalité de l'Esprit. Et donc, le Fils et l'Esprit ne sont que les représentations qu'un mode de manifestation du Père. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, le Fils n'est pas la manifestation, la réalité de la manifestation du Père. C'était un mode de manifestation. Il y avait quelque chose d'assez flou dans cette mode de manifestation. Il y avait des modalités, il prenait la modalité du Fils, la modalité du Père, la modalité de l'Esprit. Donc ça ne pouvait pas tenir non plus. Ensuite, il y a l'adoptionnisme. Alors, l'adoptionnisme, c'était l'idée de dire que Jésus était un homme qui avait été élevé au rang de fils de Dieu. Et comme il avait été élevé au rang de fils de Dieu, eh bien, c'est comme s'il avait été adopté par Dieu. Donc, c'était un homme adopté par Dieu. Il avait été promu, en fait. C'était un homme qui avait été promu au rang de Dieu. Donc, le subordinationnisme et le modalisme, eh bien, ils vont obéir à la même logique, en fait. Hein. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas penser la distinction entre Dieu. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas envisager qu'en Dieu, il puisse y avoir de la distinction. Donc, il n'y avait pas de distinction, mais il y avait de l'imitation. C'est pour ça qu'on a, ils mettent un masque, on imite Dieu. Il y avait de l'imitation. Donc, ça, ce n'est pas possible.
Ça, c'était
l'adoptionnisme. C'est-à-dire, l'adoptionnisme et le subordinationnisme.
Non, on n'a pas vu le subordinationnisme.
Le modalisme.
Oui. Modalisme là.
Alors le subordinationnisme, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est simplement qu'il pensait que le fils était inférieur au père. Il était subordonné au père. Voilà. Parce que le père est l'inengendré. Donc si le père est l'inengendré, donc le fils est postérieur. Donc de toute façon, il ne peut être qu'inférieur au père. Donc vous voyez, on a le modalisme. Le subordinationnisme, c'est-à-dire subordonné, il est inférieur au père, ou l'adoptionnisme, c'est un homme promu qui aurait été adopté. On est dans ces hérésies-là, dans l'impossibilité, c'est ce qui les caractérise, d'envisager qu'il puisse y avoir de la distinction dans la Trinité, de la distinction en Dieu lui-même. Ben, il y a de l'altérité en Dieu. Dieu nous montre bien, avec l'incarnation du Fils, qu'il y a en Dieu de l'altérité. Si Jésus s'adresse à son Père, il s'adresse à un « tu » en tant que « je ». Donc ça veut dire qu'il y a une altérité en Dieu. Et nous sommes invités à cette altérité, à découvrir aussi cette altérité. Alors, je voulais juste avant la pause, vous citez cette phrase de Vincent Holzer, qui est professeur à l'Institut catholique de Paris. Je ne sais pas si ça va vous éclairer plus, mais il dit « En Dieu, il y a de l'autre en lui », entre guillemets. Peut-être que je l'écris. « En Dieu, il y a de l'autre en lui ». En Dieu, il y a de l'autre en lui, pour signifier l'altérité, de l'autre en lui, je mets des guillemets. Ensuite, il dit que cet autre que lui va engendrer, de l'autre que lui, il engendre le fils, l'autre que lui. Et là, c'est intéressant parce que cela nous montre bien le fait d'utiliser ce terme-là, l'autre, qu'il y a une distinction, que celui qui est engendré, c'est pas le père. De l'autre que lui, en vue du don, c'est toujours en vue de, en vue du don. Et là, il met en vue du don de l'autre de lui. Alors ça, c'est peut-être plus compliqué à comprendre. De l'autre de lui. Ça nous dit de l'autre de lui, ça veut dire qu'il n'est pas d'une substance qui n'est pas la sienne. C'est de l'autre de lui. Donc, en Dieu, il y a de l'autre en lui, donc de l'altérité. Il y a de l'altérité en Dieu. Cette altérité va engendrer l'autre que lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est le Fils, donc c'est de l'autre que lui, mais on est toujours sur le même, hein. Et en vue de, parce qu'il y a quand même une raison, en vue du don de l'autre de lui. Donc c'est toujours le don du même Père, du même Dieu.
Est-ce que ça vous perd ou est-ce que ça vous perd?
C'est la dernière partie.
Oui, le don de l'autre,
c'est de qui?
Don de l'autre de lui. En vue du don de l'autre de lui.
Donc de l'esprit.
L'autre de lui.
De l'esprit. Donc de l'esprit.
De l'esprit.
Bah oui, ben oui.
C'est ça. C'est-à-dire de ce qu'il est dans sa substance, l'autre de lui. Comment on pourrait dire
le don, c'est-à-dire l'esprit, non?
Oui, l'esprit, mais de l'esprit qui leur est commun.
Oui,
c'est ça, on est d'accord. Dont l'autre de lui est de la même substance, ce qui le caractérise dans son essence, pour reprendre les termes, sa nature, son essence, de la même essence, de la même substance. Il est de la même substance, de la même essence. Voilà, bon, ça c'est de Vincent Holzer. Vincent Holzer. Vous avez peut-être dû déjà lire des... Alors, on va reprendre à partir de l'affirmation, c'est notre point 3, grand 3, l'affirmation du Concile de Nicée en 325. Donc la question prégnante, ben, vous voyez bien, même vos questions montrent bien la difficulté de comprendre la Trinité et combien ça a été aussi une difficulté pour les premiers siècles de l'Église. Et donc la difficulté, ça a été d'abord d'affirmer la nature, de quelle nature est le Fils. Donc le Fils était-il de même nature que le Père? Le Fils était-il subordonné au Père? Donc tout cela, était-il de nature inférieure? Donc toutes ces questions-là, elles se posaient et elles vont trouver leur affirmation dans des conciles successifs, c'est-à-dire dans l'affirmation de foi trinitaire va pas se mettre en œuvre tout de suite, mais à chaque concile, les choses vont se clarifier, vont se préciser. Et en fait, le mot technique du dogme s'est mis en place au fil des conciles. Donc pour nous aider à comprendre peut-être avec un autre moyen, on peut regarder l'Écriture et nous reporter à Exode 3,14. À cette affirmation, à cette parole de Dieu, cette parole du Seigneur, de Yahvé qui dit « Je suis qui je suis » ou « Je suis qui je serai ». Ce n'est pas dans les textes. Hein. Donc Exode 3,14 « Je suis qui je suis ». Voilà. Donc dès l'instant où Dieu prononce le terme de « je », cela suppose, et on en a parlé tout à l'heure, qu'il va s'adresser à un « tu ». Donc le « je », on pourrait dire que c'est le Dieu Père créateur, donc celui qui engendre, le « je » qui engendre. Et qui va s'adresser à un « tu », c'est-à-dire celui qui l'a engendré, à savoir le Christ. Et donc le Christ est celui qui va mener à bien la mission qu'il a reçue du Père. Et quand on dit ben, il va mener à bien la mission, c'est donc qu'il a une action à mener. Alors, je ne sais pas si on peut dire de la part du Père ou pour le Père, mais qu'il a une action à mener. Et cette action à mener, c'est une action qu'il met en œuvre. Donc, on a dit le « je » le Père, le « tu » le Fils, qu'on pourrait dire aussi, c'est le « il », c'est-à-dire celui par qui l'action est possible. Ce « il », c'est l'Esprit, et c'est aussi l'Esprit qui sanctifie, l'Esprit agissant et sanctifiant. Donc, on pourrait ainsi, à partir d'Exode 3,14, à partir du fait que Dieu dise « je », qu'il existe un « tu » et un « il ». Donc la question à Nicée est la suivante, est-ce que le « je », est-ce que « je » et « tu » sont de même nature? C'est ça la première question. « Je » et « tu » sont-ils de même nature?
Donc on a une question qui est celle du vocabulaire, on l'a déjà introduit, avec le mot nature, donc la question du vocabulaire, le point 3.1. Et on voit bien que le terme de nature, il dit à la fois ce qui est simple et ce qui est multiple. Parlant de la Trinité, il n'y a pas trop de difficultés dans l'affirmation, enfin, les controverses ont permis d'élucider l'affirmation, qu'il y a bien une seule nature. Mais que cette nature, elle se dit de manière distincte en trois personnes, distinctes en raison de leur action. Et donc, j'avais déjà, j'ai effacé au tableau, introduit le terme doucia, qui signifie à la fois essence et nature, mais vos questions m'ont fait avancer un peu plus vite sur le terme de substance. Donc effectivement, nature, essence ou substance, qui nous amène au terme de consubstantiel, eh bien, disent la même chose. Donc on a bien une identité de nature entre le Père et le Fils. En fait, la substance, elle va qualifier ce qu'est la chose dans son essence. La substance qualifie quelque chose dans ce qu'elle est par essence. Je ne sais pas, nous sommes par essence constitués d'atomes, de sang, de muscles. Voilà. Par essence, notre nature humaine est constituée de toutes ces choses-là. Donc, l'essence va définir ce que la nature est en tant que telle, c'est-à-dire ce qui peut la différencier d'une autre nature. Notre nature humaine est différente de la nature animale, qui est différente de la nature des fleurs. Voilà. Donc il y a une différence, mais tous les humains sont constitués de la même essence, ont cette même nature. Donc ça, c'est une première chose. Et la substance va dire ce qu'est la chose, la déterminer dans son essence. Donc, nous sommes tous de nature humaine et cela nous définit dans notre substance. Nous ne sommes pas d'une autre substance que cela. Donc là, ça va aider les pères conciliaires à définir et à déterminer et à affirmer que le Fils, partageant la nature du Père, est donc de la même essence et donc de la même substance que le Père. Donc il est consubstantiel au Père. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir. Sauf que Arius s'est basé sur une phrase de l'Ancien Testament pour affirmer le fait qu'il y eut un temps où le Fils n'était pas. Et il s'est basé sur le verset d'Isaïe, au chapitre 42 et verset 8, où il est écrit « Je suis Yahvé, tel est mon nom, ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Le fait qu'il ait été écrit « Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre » montre qu'il y a quelque chose qui serait donné, donc quelque chose qui viendrait de l'intérieur vers l'extérieur. Yahvé est donc le seul, c'est comme un Dieu solitaire et égoïste, qui ne donnerait pas sa gloire à un autre. Pour Arius, cette phrase est la preuve que Dieu est unique, qu'il est l'inengendré, et comme il est l'inengendré, il est aussi ce Dieu ferme et égoïste qui ne veut pas partager sa gloire avec un autre. Donc celui qui vient après ne peut pas être le Fils, ne peut pas être celui qui est de lui-même, comme dirait Vincent Holzer, qui est le même que lui. Donc c'est forcément soit un subordonné, soit, pour reprendre le substantif, soit un adopté, enfin, vous voyez, pour reprendre les hérésies. Donc ça, ça ne peut pas tenir. Et donc la doctrine d'Arius consistait à affirmer que le fils ne peut pas être né et il ne peut pas être engendré. Et donc, seul le père est de nature divine. Et donc, ça va déclencher une querelle absolument historique. Parce que si le fils est distinct du père, et si le fils est postérieur au père, alors il ne peut être que subordonné. Donc voilà, à partir de ce verset 8 du chapitre de 42 d'Isaïe, eh bien, la doctrine d'Arius s'est mise en œuvre à partir de ce verset-là. Donc on voit bien combien le recours à l'écriture est la base du raisonnement. C'est-à-dire que ce ne sont pas pour ces hommes de cette époque-là, puisqu'ils étaient dans l'Église, ils n'étaient pas à l'extérieur de l'Église, ce ne sont pas des hérésies venant de conjectures. Joseph Ratzinger nous le dit dans le texte. Ce ne sont pas, la Trinité n'est pas née de conjectures humaines. C'est-à-dire que ces hommes-là ont eu recours à l'écriture. Et interprétant l'écriture, eh bien, Arius a interprété ce verset d'Isaïe de cette manière-là. Mais on ne peut pas lui reprocher de l'avoir interprété de cette manière-là. La difficulté, c'est que l'Église, face à ces hérésies, est dans l'obligation, et en plus elle est sommée par l'empereur qui convoque le concile, parce que les empereurs n'aiment pas le désordre, donc il faut qu'il y ait une réponse rapide, efficace, qui puisse tenir tout le peuple chrétien et catholique dans une même affirmation de foi concernant la Trinité. Donc les termes doivent être fixés. Et pour être fixés, ils doivent d'abord être affirmés par le Concile. Et donc le mot qui a été choisi, c'est le mot « homo ouios ». C'est ce mot-là qui a été choisi, c'est lui qui a fait consensus. Donc « homo », le même, et puis « ousios », nature. Donc de même nature, le fils et le père et le fils sont de même nature, et bien sûr l'esprit de même nature.
Homo et après ?
C'est un S.
Non, entre homo et...
Après homo, il y a...
Alors homo,
je crois que c'est
ousios. Alors je ne sais pas si on... Moi je ne mets pas, je fais ousios, homo ousios, comme ça, parce que sinon ça fait deux. Mais si vous l'écrivez en deux mots... C'est homo ou sios, les deux, voilà. Voilà, comme ça. Je pouvais le séparer, ou mettre un tiret, et tout.
De même nature.
Et donc, de ce mot-là est donc né Jésus-Christ, est le Fils de Dieu engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et donc ce consubstantiel au Père. Et donc voilà le texte 7 qui est le concile, le symbole de Nicée. Donc voilà ce que les pères ont affirmé. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père comme fils unique, c'est-à-dire de la substance du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts, et dans l'Esprit Saint. Quant à ceux qui disent « Il y eut un temps où il n'était pas », contre Arius, ou encore « Avant de naître, il n'était pas », ça nous ramène à l'Ancien Testament, le souffle existait dès avant la création, ou encore le Fils de Dieu existe à partir d'une autre hypostase ou d'une autre substance, ou alors il est une créature, ou encore il est muable ou changeant, l'Église catholique et apostolique les anathémise. Arius a donc été anathémisé et exilé. Pas atomisé, mais il a été anathémisé. Voilà.
Ça veut dire anathémisé ?
Eh bien, l'Église a jeté un anathème. C'est l'anathème. Ça veut dire qu'il est exclu, c'est-à-dire complètement exclu de l'Église. Voilà. Donc c'est quelque chose de grave pour Arius. Et donc ce qui est intéressant dans cette formulation du symbole de Nicée, c'est les mots qui va faire naître le dogme. Parce qu'on pourrait se demander, finalement, le dogme, il naît comment, il naît quand ? En fait, ce qui fait naître le dogme, c'est le fait de fixer une affirmation de foi. Mais le mot qui nous fait identifier le dogme, qui va faire naître le dogme, c'est-à-dire la formulation technique de la règle de foi, c'est le « c'est-à-dire ». Quand on lit « Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père comme Fils unique, c'est-à-dire de la substance du Père. » Eh bien, ce « c'est-à-dire », ça va être la formule technique du dogme. C'est-à-dire, le dogme va pouvoir s'affirmer, c'est-à-dire, il dit la chose, et en fait, c'est-à-dire, il explique, c'est-à-dire, voilà ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'il est de la même substance que le Père. Donc, ce terme-là, « c'est-à-dire », c'est la formulation technique du dogme. Et cela, ça commence avec la Trinité, petit à petit. Cela commence comme ça.
Engendré parce qu'il naît du Père, il naît de Dieu et non pas de l'homme. C'est-à-dire, nous sommes nés, nous sommes des créatures, nés d'une créature, le Fils de Dieu, il est engendré par l'Esprit, même s'il naît de Marie, il est engendré, mais il n'est pas créé par une même nature humaine. Un homme et une femme, de même nature humaine, d'une seule nature humaine, créés. Un petit homme, et la femme née au monde, ce petit homme, l'engendrement du Fils, c'est vraiment l'engendrement par la puissance de l'Esprit, d'une nature divine, de la nature divine, et de la nature unique divine. C'est-à-dire, ce n'est pas par le truchement ou l'intervention d'un la mise au monde, par Marie, je comprends que ce soit...
C'est aussi peut-être dans la Genèse, quand il crée Dieu par la parole, il les crée,
oui.
Justement, il ne crée pas le Fils, il l'engendre, il sort de lui, quoi, je veux dire, il est...
Oui, mais c'est l'idée de l'engendrement, on pourrait dire ça sort de lui et c'est en même temps, c'est lui.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un mouvement, non pas de création... Parce que dès l'instant où on dit création, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sorti. Vous voyez ? Il y a un mouvement d'extériorisation dans la révélation, un mouvement d'extériorisation, mais c'est pas quelque chose qui est extérieur. C'est-à-dire que le Fils n'est pas extérieur à ce qu'il est vraiment dans son essence.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'incarnation par rapport à l'engendrement ?
Eh bien, l'incarnation, c'est... Alors, l'incarnation, on peut l'expliquer par l'engendrement, la parole incarnée, c'est-à-dire la parole qui se fait chair, vous citiez le prologue de Jean tout à l'heure, cette parole qui se fait chair et qui devient une présence réelle, enfin une présence réelle, oui, c'est-à-dire une présence incarnée dans le monde.
Oui, Jésus.
Jésus.
Jésus, l'être humain, comme nous.
Et en même temps, Jésus... de nature humaine, vivant dans le monde avec les hommes, mourant comme un homme, mais ne mourant pas comme tous les hommes, eh bien, lui-même est aussi celui qui est du Père, engendré par le Père, de la volonté du Père. Alors on pourrait y instaurer cette idée de volonté. C'est-à-dire, comme le jour de son baptême, il m'a plu de le choisir. C'est-à-dire cette idée de volonté du Père de se faire connaître autrement que par sa parole. C'est-à-dire une parole qui soit une parole vivante, enfin présente, mais pas une parole qui soit une parole éphémère. Enfin, vous voyez, quand je dis ça, c'est comme s'il y avait quelque chose de quelque chose de spontané et d'éphémère. L'engendrement du Fils ne va pas le, enfin avec tous les guillemets possibles, hein, ne va pas lui éviter la mort humaine. Vous voyez, c'est ça aussi la force de cet engendrement. C'est que c'est la volonté de sauver les hommes, mais de les sauver à partir de ce qu'ils seront capables de connaître et de reconnaître en Jésus-Christ. Et ils sont sauvés dès l'instant où ils reconnaissent que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, et que ce Fils de Dieu meurt sur la croix et il est ressuscité par le Père. Bien sûr qu'ils ne vont pas le reconnaître tout de suite, mais on voit bien que la reconnaissance, elle passe par là, par la résurrection qui fait faire le chemin inverse. Et donc je pense que l'engendrement, s'il n'y avait pas l'incarnation, ce serait quelque chose de peut-être d'un peu abstrait, de désincarné. Et c'est pour ça que l'engendrement, il est incarné parce que ce Fils de Dieu, il a cette double nature et qu'il va assumer la mort jusqu'au bout, qu'il va la vivre. Il va avoir peur, il va être angoissé, il va supplier le Père d'éloigner de lui la coupe. Donc ça veut dire que rien ne lui a été évité à ce Fils de Dieu. L'angoisse ne lui a pas été évitée au titre qu'il est engendré du Père. Et peut-être que ça donne la force à cette idée d'engendrement. Lui enlève sa dimension abstraite, fictive, complètement éthérée.
Ce qui me perturbe dans ce terme d'engendrement, c'est parce que dans les premières généalogies qu'on a dans la Genèse, on parle de un tel engendra un tel.
Ah oui, oui, c'est ça. Et on a aussi chez Luc, dans la généalogie chez Luc. Ouais. Et en même temps, ce terme d'engendrer, il n'est pas non plus totalement... totalement... c'est aussi naître de la chair, enfin... Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Il faudra aller voir la traduction en hébreu, si on a la même signification d'engendrer.
Moi, j'ai une autre question. Les dogmes, c'est fini, alors? Ou il y en a encore d'autres écrits?
Ben, en fait, les règles de foi sont quand même fixées. C'est-à-dire qu'on ne revient plus sur le dogme de la Trinité, sur l'incarnation.
Il y en a qui sont tardifs, hein, parce que la Vierge Marie, enfin,
Oui, mais ça fait partie, c'est-à-dire c'est un dogme qui affirme que Marie était vierge, donc, et qu'elle était pure. Donc,
on peut imaginer qu'il y en aura d'autres, peut-être.
Oui.
Parce qu'au fur et à mesure, il y a du questionnement des sociétés sur la doctrine de l'Église. Il y a
Oui, mais je pense pas que l'Église revienne sur ce dogme-là.
Non, mais il y a peut-être des choses complémentaires. C'est comme l'Immaculée Conception, on peut considérer que c'était pas fondamental, mais c'est venu après.
Oui, après, je ne pourrais pas répondre à ça. Je pourrais juste dire peut-être que peut-être qu'on n'en a pas fini avec la manifestation. Peut-être que d'autres...
Tant qu'il y aura des questions,
peut-être que Dieu se révélera à la fin des temps. Peut-être, mais là, il sera plus le temps d'aller plus en
Il sera plus le temps d'aller réunir les consignes.
Mais oui.
Est-ce que ça peut être
Ah oui, alors si vous voulez, alors oui, c'est en quatre volumes. Bernard Cézouet. Oui, l'histoire des dogmes. Bernard Cézeboué. C'est
le texte qui doit être étudié.
Ah oui, qui repart. Alors, en 4 volumes, si vous voulez, sous la direction de Bernard Cézeboué. Bernard Cézeboué. Et c'est, ça s'appelle, c'est des gros bouquins, ça fait 500 pages à chaque fois. L'histoire des dogmes. Et donc, il part depuis le début, en fait, hein, vraiment depuis l'Écriture, depuis l'Ancien Testament. Et il montre comment la révélation s'est mise en œuvre, l'Écriture, et comment on en arrive. L'histoire, enfin, c'est toute l'histoire des dogmes, toute la réalisation, l'histoire des dogmes, en 4 volumes. L'histoire, c'est l'édition Lucerne, je crois. Je ne sais plus. Vous regarderez si ça vous intéresse.
Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, que je ne vous ai pas encore dit ? Le point 3.3, on en était là. Principe et formule trinitaire. Donc le premier lieu de vérification du dogme et des formules trinitaires, enfin d'abord des formules trinitaires, enfin des formules, oui, des formules trinitaires, c'est l'écriture. Voilà. Voilà pourquoi Bernard Cézeboué commence, lui, son premier volume avec l'écriture. Parce que l'écriture va nous donner des clés pour comprendre la distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit.
Excusez-moi. Pourquoi vous dites esprit et pas Saint-Esprit ?
Ah oui, je pourrais dire Saint-Esprit. Non, mais c'est vrai. Oui. Parce que pour moi, c'est quand je parle de l'Esprit, c'est automatiquement l'Esprit Saint. D'accord. Mais c'est vrai, vous avez raison, parce que ça pourrait être bien l'Esprit frappeur. Oui, bien sûr, ouais, c'est vraiment l'Esprit Saint. Je pense vraiment à ça. Donc la profession de foi que l'on retrouve dans l'Écriture, par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, c'est le texte 8, hein, 1 Corinthiens 8, 6, eh bien on peut lire « Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et par qui nous allons. » Donc la confession de foi, elle est trinitaire, mais elle est christologique, c'est-à-dire c'est à partir du Christ que nous comprenons cette confession de foi et les formules trinitaires. Donc la Trinité, on pourrait dire, elle est christologique.
Excusez-moi, juste sur ce que vous venez de dire, il y a une distinction entre Dieu et Seigneur.
Alors c'était la citation de 1 Corinthiens.
Oui.
Alors, 1 Corinthiens écrit, donc Paul écrit, « Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et par qui nous allons. »
Est-ce qu'il y a une question de vocabulaire entre Dieu et Seigneur, c'est pas, ou c'est...
Ah, non. Alors, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de Dieu, on parle de Yahvé, du Seigneur. C'est le Seigneur dans l'Ancien Testament. Alors que Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur.
Ah, d'accord.
Oui. Est-ce que ça vous...
Non, parce que je me demandais s'il y avait une volonté de distinguer justement clairement Dieu et Seigneur.
Ah oui, non, je ne pense pas. Là, sûrement pas. C'est-à-dire, chez Paul, il n'y a pas la volonté de distinguer. C'est un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Voilà. Comment ?
Quand on parle de Seigneur Dieu.
Oui, mais vous voyez bien, c'est-à-dire que même dans la liturgie, quand on parle de Seigneur Dieu, on est de toute façon, on ne sépare pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de. Dans l'Ancien Testament, il y avait les traditions yavistes, éloïstes, et on ne mettait pas le nom de Dieu. Enfin, les Juifs ne prononçaient pas le nom de Dieu. Donc c'était le Seigneur. Maintenant, si on dit Seigneur Dieu, c'est une manière de réunir ce terme, de donner à ce... Enfin, j'imagine, je ne suis pas liturgiste, mais à ce terme-là, une force,
une force, une force d'appellation.
On pourrait enlever pour si ça nous embête en termes de sens.
D'enlever le Seigneur.
Oui. Parce qu'il est, il est quand même mis souvent à toutes les sources.
Mais oui, c'est vrai, Seigneur Dieu, oui. Mais en même temps, c'est pas gênant, Seigneur Dieu. Bah, quand je dis ça, je pense au Père. Mais après, c'est.
Seigneur Dieu, 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 Dieu le Fils du Père. Ça, c'est formulé dans la liturgie.
Oui, c'est ça.
C'est lequel là.
Ouais. Seigneur Dieu, 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 le Fils du Père. Ça, c'est le Fils.
Seigneur Dieu.
Ouais. Oui, mais le Fils, il n'est pas, il n'est pas séparé du Père. Hein, c'est ce que nous dit le Concile de Nicée. Sans changement, il n'y a pas de changement, il n'est pas muable, il n'y a pas de changement, il y a une distinction, il n'y a pas de séparation. On ne sépare pas le Fils du Père. Donc si on dit Seigneur Dieu, le Fils du Père, je veux dire, c'est pas. Si on dit qu'il y a une circulation, enfin, que la Trinité, il y a une relation amour des trois, notre réflexe, c'est de. C'est de séparer. Et on voit bien là, si on dit, ben, si on dit Seigneur Dieu, est-ce que le Seigneur c'est le Fils et Dieu c'est le Père? Mais si on ne sépare pas, ça n'a pas tellement de. Est-ce que pour vous, séparer, c'est plus explicite?
À force de mettre plein de mots, ça perturbe.
Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Sauf que parfois, là, il y a trop de mots dans la liturgie.
Voilà.
Une liturgie plus simple, avec trop de mots, trop de.
Je vais dans une assistance où tout le monde a des cours de théologie, on est perdu.
Oui, c'est ça. Trop de. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, je vous suis tout à fait. Parfois, il faudrait réduire un petit peu le vocabulaire. On rajoute un peu. Mais bon, Seigneur Dieu, si on reprend le symbole d'Athanase qui met Dieu au centre, ça permet un peu mieux d'articuler, en fait. Parce que c'est pas Seigneur Jésus. Enfin, si on dit Seigneur Jésus. À quel moment dans la liturgie on dit Seigneur Jésus? Bon, enfin voilà. Donc, bon. On voit bien que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que le vocabulaire peut être simple et nous aider. Et en même temps. Il peut aussi, non pas nous perdre, mais à vouloir trop dire, eh bien, on ne sait plus de qui on parle. Bon. Mais globalement, la liturgie est quand même bien faite, malgré tout. Après, me semble-t-il quand même. Après, si dans Seigneur Dieu, après, ben, tant que vous n'y mettez pas...
Je ne sais pas qui, le diable, ou je ne sais pas quoi. Enfin,
vous voyez bien, dès l'instant où vous avez ce Seigneur Dieu amour, ça suffit. Enfin, fils de Dieu, agneau de Dieu, fils du Père. Je trouve que là, ça identifie la nature plus que la... C'est-à-dire la nature divine de l'un et de l'autre. Seigneur Dieu. Là, on est vraiment... Enfin, moi, j'entends plus l'identité de nature que la distinction des personnes dans ce terme-là. Donc, Matthieu, dans son dernier chapitre, au verset 19 et 20, eh bien, on a à nouveau cette injonction trinitaire. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Donc, on voit bien ce mouvement du Père qui sauve par sa parole et ses actions, c'est-à-dire le projet du Père, la mission du Fils et le don de l'Esprit. Cette mission, elle est confiée aux apôtres. C'est eux qui reçoivent. Jésus s'adresse aux apôtres en leur disant ça. Allez de toutes les nations. Et il leur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc la mission de l'Église,
C'est la mission qu'elle a reçue à la suite des apôtres. Balthazar nous dit quelque chose d'assez... voilà, il écrit au texte 10, c'est seulement à partir du comportement de Jésus à l'égard de son Père et de l'Esprit, à l'égard de son Père et de l'Esprit, que nous apprenons quelque chose des relations trinitaires, de vie et d'amour dans le seul unique de Dieu, dans le seul et unique Dieu. Ben, je pense que voilà, cette phrase toute simple, elle dit beaucoup en fait. C'est-à-dire on comprend quelque chose de la relation trinitaire entre le Père, le Fils et l'Esprit à partir du Fils. C'est-à-dire le comportement que Jésus a à l'égard de son Père nous dit quelque chose de ce qu'est la Trinité. Alors j'ai écrit après, ainsi Jésus est bien l'ultime porteur de l'Esprit, l'ultime porteur de l'Esprit, l'Esprit qui est uni à lui, est aussi le révélateur de sa condition filiale. Vous voyez, l'Esprit qui est uni à lui va révéler la condition filiale entre lui et son Père. Et du coup, il est le Messie en qui tout s'accomplit.
L'Esprit qui est uni en lui.
L'Esprit qui est uni à lui est aussi le révélateur de sa condition filiale. C'est-à-dire de ce qui l'unit à son Père. Et de fait, il est le Messie en qui tout s'accomplit. Et s'il est le Messie en qui tout s'accomplit, c'est bien par cet esprit qui leur est commun. Et Jésus est le Fils qui ne peut pas être séparé du nom de Dieu. Alors, Seigneur Dieu, c'est peut-être cela, il ne peut pas être séparé du nom de Dieu. Donc l'association Seigneur-Dieu a peut-être sa justification en cela. Jean écrit, Jean 3, chapitre 3, verset 17, « Le Père est celui qui envoie et qui, par l'acte d'envoi, fonde toute l'existence de Jésus » et en assume toute la responsabilité, l'accompagne et détermine son but. Voilà, en conclusion, on pourrait dire donc que la confession de foi en Dieu, c'est confesser un Dieu trine, et pour confesser un Dieu trine, eh bien, on revient à l'origine, c'est-à-dire au Dieu créateur, ce Dieu créateur qui est unique, qui décide de se révéler, qui décide d'aller à la rencontre des hommes. Et ça, vous le savez, je le répète souvent, d'abord, vous le savez de toute façon, par sa parole, puis par son Fils incarné. Donc ce Dieu créateur n'est pas un Dieu inaccessible. C'est un Dieu qui se donne, qui se fait connaître. Et puis le Fils de Dieu, qui est la parole du Père, la parole incarnée, ce Verbe qui est fait chair et qui a habité parmi nous, nous dit Jean. Et donc pour découvrir qui est le Père, eh bien il faut connaître le Fils. Et ce Fils de Dieu, il s'est fait aussi le frère en humanité. Et ce frère en humanité, il est le médiateur du Père, le médiateur du Créateur. Et puis pour reprendre les termes du Concile de Chalcédoine en 451, il est Dieu même et homme même. C'est-à-dire en réalité et en totalité. Ce n'est pas la moitié d'un homme et la moitié d'un Dieu. Et puis ensuite, l'esprit. Cet esprit qui est commun aux trois personnes de la Trinité. Mais ce n'est pas un troisième. Vous voyez, tout à l'heure, madame, on parlait de l'Esprit Saint, qu'on a du mal à... c'est pas l'Esprit Saint, c'est pas un troisième qui viendrait s'intercaler entre les deux. C'est pas ça, c'est vraiment... il ne va pas se confondre avec les autres personnes. Donc l'esprit est commun aux personnes de la Trinité, mais ce n'est pas un troisième, ce n'est pas le troisième homme. Voilà. Il agit du Père et il agit du Fils. Voilà, le dû, il est important, il agit du Père et du Fils. Et donc l'esprit relie Jésus au Père, en fait. C'est une force reliante, enfin, identifiante, agissante, sanctifiante. Les miracles que Jésus fait, il les fait par cette force de l'esprit, cet esprit qui sanctifie. Et vous voyez, quand Jésus guérit, souvent il dit à celui qui est guéri, « Viens, va te montrer au grand prêtre. » Voilà. C'est-à-dire qu'il est déjà sanctifié par le miracle réalisé, mais voilà, d'aller recevoir cette bénédiction, en tout cas de se montrer au grand prêtre. Donc la foi trinitaire est proclamée par l'Église dans le kérigme. Le kérigme, il est trinitaire, éminemment trinitaire. Bon, ben voilà, mes amis. Comment ?